j'ai retrouvé un sommeil un peu plus profond. Avec tous ces reflux, j'arrivais à même une demi-heure après, à me réveiller, à être pas bien, à tousser, à être assis au bord du lit, à être vraiment, vraiment pas bien, de reprendre un médicament, de rattendre une heure, deux heures, et puis d'avoir les nuits entrecoupées de réveil.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boissère et Cécile, et le quotidien 24 heures. Se nourrir rime souvent avec plaisir, un moment de réconfort et de partage. Mais pour certaines personnes, manger peut devenir une épreuve du quotidien. Brûlure, remontée acide ou aigreur d'estomac, le reflux gastro-œsophagien, c'est souvent ça, se sentir mal après avoir mangé. En Suisse, cette pathologie toucherait plus de 20% de la population. Et lorsqu'elle devient chronique, elle peut vite être très handicapante en altérant le sommeil, l'alimentation, bref, la qualité de vie. Jean-Luc, lui, l'avait en partie perdu. À 51 ans, cela faisait 10 ans qu'il subissait des crises de reflux de plus en plus intenses.
C'est vraiment lors de gros repas que ça se déclarait. Je pense qu'il a bien fallu 6 ans, 7 ans avant que je me pose vraiment la question. Et c'est vraiment la fréquence qui était de plus en plus rapprochée. C'était, je sais pas, disons, une fois tous les 15 jours ou deux fois tous les 15 jours.
Le docteur Philippe Matisse, gastro-entérologue à la clinique Cécile.
Alors le reflux gastro-œsophagien, c'est la remontée du contenu gastrique jusque dans l'œsophage, voire un peu plus haut. Et il faut distinguer le reflux gastro-œsophagien physiologique, qui peut se venir tous les jours et qui dépend de ce que l'on a mangé, de l'activité physique par exemple, du reflux gastro-œsophagien pathologique, qui se vient de manière, disons, excessive et qui peut entraîner des symptômes ou des complications. Ça peut toucher n'importe qui. On peut retrouver ça chez les enfants, mais en général, ça peut toucher autant les hommes que les femmes et à n'importe quel âge. Il y a des facteurs de risque. L'obésité, par exemple, le surpoids, ça c'est un facteur de risque bien connu. Surtout l'obésité abdominale ou l'augmentation de graisse à l'intérieur de la cavité abdominale qui va augmenter la pression et donc favoriser les remontées gastriques. Il y a des facteurs de risque d'habitude de vie, donc le tabac. L'alcool n'a pas été clairement démontré, étonnamment. Et peut être confondu en fait avec des brûlures, rien qu'à la... Si on prend un alcool fort, par exemple, on peut avoir des brûlures, mais qui ne sont pas du reflux gastro-œsophagien en soi. Et on sait que les aliments qui sont très caloriques aussi peuvent favoriser le reflux gastro-œsophagien, principalement parce qu'ils vont ralentir la vidange de l'estomac. Et si l'estomac se vide moins lentement, alors ça peut favoriser les remontées de reflux dans l'œsophage.
La situation s'aggrave pour Jean-Luc. Plus rien ne fait effet.
Je prenais les médicaments avant, même après. Puis c'est là que je me dis, là, franchement, il faut que je fasse quelque chose pour moi et puis pour mon bien-être. C'est ça qui est vraiment important. Parce que c'est vrai que ça pèse passablement sur le moral. Le fait de toujours prendre des médicaments, de chercher le confort, ben pour moi, ça devenait pesant, quoi. C'était même plus des reflux, c'était vraiment des reflux alimentaires. Et voilà, c'est clair que le lit, ben voilà, il en prend un coup. Après, c'est clair, il y a des discussions avec ma femme qui fait que, voilà, il fallait que je commence à m'inquiéter et, sérieusement et prendre rendez-vous chez mon médecin.
Les symptômes de reflux typiques, qu'il faut connaître, c'est les brûlures qui partent, si vous voulez, de l'estomac puis qui remontent dans la poitrine, parfois jusque dans la gorge. et ce qu'on appelle les régurgitations, qui sont la perception d'avoir du liquide qui remonte jusque dans la bouche et qui peut avoir un goût acide ou amer. Donc ça, c'est des symptômes que l'on définit comme étant plutôt typiques pour du reflux. Ils peuvent être confondus également avec d'autres pathologies. Et il y a aussi des symptômes que l'on définit comme étant atypiques et qui peuvent être très variés. On entend la toux, l'asthme, des brûlures de gorge, des raclements de gorge, la voix qui change, l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Donc ce sont des symptômes qui peuvent être en lien avec du reflux, mais qui sont beaucoup plus atypiques. Donc lorsque ces symptômes sont présents, alors plus ils sont typiques, plus qu'on va avoir tendance à proposer un traitement, un médicament antiacide, donc un inhibiteur de la pompe à protons.
Pour Jean-Luc, ce traitement ne fonctionne plus. Démarre alors toute une batterie de tests pour trouver l'origine du problème, à commencer par une pH-métrie.
C'est un peu désagréable, c'est de mettre un tuyau dans le nez jusqu'à l'estomac pour savoir, pour avoir la résonance, en fin de compte, des reflux, quand je bois de l'eau ou j'avale quelque chose. J'ai dû garder pratiquement 24 heures une sonde jusque dans l'estomac qui calcule le pH, le niveau pH avant l'œsophage et après l'estomac. Ils ont juste entrevu quelque chose, mais qui était minime. Et c'était qu'à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment à prendre ces médicaments, à stopper les reflux. Et puis, en septembre l'année passée, même ces médicaments ne faisaient même plus effet. Les autres tests ont démontré qu'il y avait quelque chose à faire.
Lorsqu'on fait une gastroscopie, on peut voir s'il y a des signes d'inflammation de l'œsophage liés au reflux, aigus ou chronique. Parfois, la gastroscopie va être normale. Donc, dans ce cas-là, il faut envisager d'autres investigations où on peut mesurer, grâce à une sonde que l'on insère depuis le nez jusque dans l'estomac, la quantité, si on veut, d'acide qui remonte dans l'œsophage. Donc, c'est un cathéter que l'on introduit délicatement par le nez jusque dans l'estomac, qui est rattaché à un boîtier et qui permet de mesurer sur 24 heures l'acidité qui remonte dans l'œsophage et surtout la corrélation entre les épisodes de reflux et les symptômes du patient. Et puis on a un autre examen qui s'appelle la capsule Bravo ou pH-métrie non filaire. Ça, c'est une capsule qu'on attache dans le bas de l'œsophage et qui permet de mesurer l'acide, si vous voulez, qui remonte dans l'œsophage. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sonde, de cathéter, et qu'on peut mesurer l'acide jusqu'à 4 jours. Parce qu'il existe une certaine variabilité dans le temps d'exposition acide, dans l'exposition acide de l'œsophage. Et donc parfois on a recours à cet examen s'il y a une intolérance à la sonde ou lorsqu'il y a un doute diagnostique, parce que ça peut arriver qu'on se retrouve dans des situations entre deux, on va dire, dans des zones grises. Et puis il reste encore la manométrie, ça c'est le dernier examen qui est fortement recommandé avant une chirurgie anti-reflux. C'est un examen qui permet de voir comment fonctionne l'œsophage, comment il se contracte. Donc ça permet de voir s'il y a une hernie hiatale.
Une hernie hiatale présente chez Jean-Luc, qui doit donc passer par la case intervention chirurgicale.
C'est une opération qui consiste à remettre en fonction, en fin de compte, les muscles inférieurs de l'œsophage pour qu'ils soient un peu plus tendus et mettre l'estomac avec un angle différent pour pouvoir arrêter ces reflux. Ce n'était pas évident déjà de prendre la conscience qu'on va se faire opérer. On a toujours en tête de dire ouais, on prend des médicaments, on arrive toujours à trouver une solution, mais non, là c'était vraiment pratiquement une reconstitution de l'œsophage pour gagner en confort. Et voilà.
La principale protection contre le reflux, c'est la barrière anti-reflux qui est constituée, si vous voulez, du sphincter inférieur de l'œsophage, qui est un petit muscle qui se retrouve tout en bas de l'œsophage, et du diaphragme, qui ensemble vont constituer une barrière. Et on sait que la plupart des gens qui ont une séparation entre ces deux composantes, donc c'est-à-dire une hernie hiatale, donc une hernie de l'estomac qui remonte dans la cavité, c'est un facteur de risque d'avoir du reflux. Donc la chirurgie va consister à restaurer cette barrière anti-reflux.
Ça s'est bien passé, c'est un robot qui m'a opéré, c'est 6 trous dans l'abdomen. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est vraiment le fait qu'avec 6 trous, ils arrivent à remonter pratiquement sur l'œsophage, même au-delà de l'œsophage, pratiquement 7 cm en dessus de l'œsophage.
On va prendre une partie de l'estomac et l'enrouler autour du bas œsophage pour serrer le bas de l'œsophage afin de restaurer cette barrière anti-reflux. C'est une chirurgie qui se fait par voie laparoscopique actuellement. Donc, on fait 3 petites incisions et qui peut se faire en ambulatoire, se faire de ma part, et pour lesquelles les patients peuvent récupérer assez vite. Le principal effet secondaire, c'est la difficulté à remanger. Donc, au début, on leur dit de manger de manière un petit peu plus molle ou liquide, mais les gens peuvent très bien récupérer assez vite.
2 semaines après son opération, Jean-Luc a retrouvé une vie sans reflux.
C'était la bonne chose à faire. Même si je suis encore un peu en train de manger un peu plus light, j'ai quand même perdu 4 kilos. Les 2 premières semaines, tout est mixé, c'est plutôt souple, c'est plutôt liquide. Le temps que les cicatrices au niveau de l'œsophage se ferment. Là, j'ai repris une alimentation à peu près normale depuis 2 jours. Je suis vraiment satisfait du résultat. J'ai vraiment plus ces reflux gastriques. Je retrouve, le côté super sympa de la vie, quoi, par rapport à mon alimentation, au reflux. Et puis, j'ai retrouvé un sommeil un peu plus profond. Avec tous ces reflux, j'arrivais à même une demi-heure après, à me réveiller, à être pas bien, à tousser, à être assis au bord du lit, à être vraiment, vraiment pas bien, de reprendre un médicament, de rattendre 1 heure, 2 heures. Et puis d'avoir les nuits entrecoupées de réveil. Ouais, franchement, maintenant, je me couche, je me réveille, je suis bien et serein.
Mais avant d'en arriver à la chirurgie, il y a toutefois quelques astuces pour limiter le reflux gastro-œsophagien.
Il y a des mesures assez simples que l'on peut entreprendre pour diminuer les symptômes, voire les éviter. Donc si on est en surpoids, que l'on a pris du poids, c'est de perdre du poids. Ça peut déjà pas simplement améliorer les symptômes, éviter les facteurs qui peuvent favoriser, donc le tabac, certains aliments, les repas très caloriques. Et puis, comme le reflux est quelque chose qui survient de manière en lien avec la gravité, en fait, il faut imaginer que l'estomac se retrouve en haut de l'œsophage. Donc, si vous allongez, ils seront à peu près au même niveau, donc vous allez avoir plus de reflux. Donc, ce que l'on recommande aux patients, c'est d'éviter de manger 2 à 3 heures avant d'aller se coucher, de dormir avec le dossier un petit peu surélevé. Et ce qui peut parfois aider, c'est dormir sur le côté gauche. Parce que sur le côté gauche, votre estomac va se retrouver en dessous de l'œsophage. Donc ça peut passablement protéger du reflux.
Jean-Luc, lui, a l'impression aujourd'hui de briser un peu un tabou sur une maladie dont on ne parle pas beaucoup, même si elle touche de nombreuses personnes.
J'en discutais depuis longuement avec ma femme. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand j'ai commencé à un peu m'ouvrir sur l'extérieur par rapport à mes amis, mes collègues, il y a beaucoup de monde qui m'ont fait part de la même chose. Je trouve que ce genre de maladie, c'est tabou. Les gens restent dans leur sphère privée en gardant ce genre de problématiques. Ça reste assez personnel de se dévoiler en disant tous les nuits je me réveille ou tous les 3 nuits je me réveille. C'est pas évident de le dire à l'extérieur. Peut-être, s'il y a vraiment une chose à faire, c'est que les gens, il faut qu'ils prennent soin d'eux, puis c'est pas une vie d'être pas bien tout le temps.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des liens sur le reflux gastro-œsophagien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.